Actu SF, les podcasts.
Bienvenue à tous donc pour cette table ronde qui s'intitule « Et on sourit et on rigole, l'humour dans l'imaginaire ». Voilà. Débrouille-toi avec l'intitulé. Alors, nous avons autour de cette table donc trois auteurs. Donc, je commence par Jean-Claude Dugnac, qui, après avoir fait tout un tas de choses dans sa vie, chanteur, guitariste dans un groupe de rock, raconté des contes, fait des lectures, tenu un sex shop. Voilà. Pas longtemps, mais 3 semaines, je crois, le temps minimum requis pour pouvoir le mettre dans le CV. C'est ça ? Ouais. Voilà. Et donc, ensuite, donc, auteur d'un certain nombre de romans, d'un très grand nombre de nouvelles, hein, puisque Jean-Claude est un très très grand novelliste, anthologiste. Donc, tu avais fait l'Anto Troll et Licorne en 2015, si je me souviens bien, dans les différents domaines de l'imaginaire. Et notamment, tu as exploré la veine humoristique et satirique, tout particulièrement dans les aventures de ton troll, avec L'instinct du troll qui est paru en 2015 et L'enfer du troll en 2017. Donc, bien évidemment, on va pas mal parler de ce troll ce matin. John Lang, alias Pen of Chaos, hein, la plume du chaos, ça en dit long déjà sur le personnage.
Ce n'est pas une plume de poulet d'ailleurs.
Artiste polyvalent puisqu'il écrit, mais il fait aussi partie du groupe musical Naul Band. Donc sur le thème Naul Buck, il a développé tout un univers dont on va parler tout à l'heure. Alexis Flamand, alors lui, il se désigne lui-même comme un extraterrestre qui a pris forme humaine et qui est coincé dans un corps d'emprunt. Et donc, il exerce son humour avec enthousiasme dans le cycle d'Alamander dont il va nous parler. Alors, j'avais envie un petit peu comme entrée en matière. On va commencer à parler du troll. Et donc, L'enfer du troll, que je recommande très vivement. 4e de couverture. Nous sommes censés accompagner Sheldon et Brizen dans leur voyage de noces à l'autre bout du monde et jeter un coup d'œil à la situation d'une des mines locales qui s'ouvre à flanc de volcan. Les rapports qui lui parviennent ne sont pas conformes au planning. Tu t'attends à quoi ? Une menace inconnue, terrifiante, du genre que les humains ne sont pas taillés pour affronter. Une apocalypse à l'échelle du monde qui risque d'éradiquer toute vie intelligente sur Terre. Et ça pourrait même nous affecter par ricochet. Pour venir à bout de leur quête, le troll et ses complices vont devoir affronter les typhons des mers du Sud, une armée de zombies et de consultants, et résister au piège des épouvantables souvenirs pour touristes. Mais ils disposent d'une arme secrète. Leur mission est dotée d'un budget. Donc ça vous met au parfum sur l'atmosphère du livre. Donc parle-nous un petit peu de ce personnage de troll et surtout de cet environnement très particulier dans lequel il évolue et où on retrouve un certain nombre de choses probablement tirées de ton expérience professionnelle puisqu'en parallèle, tu es ingénieur à EADS chez Airbus depuis 82. Et j'ai l'impression qu'on retrouve des choses un peu tirées du monde du travail dans ces aventures du troll.
Oui, en fait, le troll, c'est une histoire bizarre. En fait, j'ai un éditeur, qui est outre que c'est un très bon éditeur, qui est un éditeur qui passe son temps à me solliciter et qui m'a dit « J'aimerais bien que dans tes recueils, il y ait des textes humoristiques. » Et donc, un jour, j'ai écrit une histoire dont le héros était un troll. Bon, on va comprendre. Et il y a eu plusieurs histoires de ce troll, qui étaient des histoires indépendantes, mais le troll était un individu solitaire, entouré certes de nains, de dragons et d'autres chevaliers teutoniques, mais il était seul. Et un jour, une histoire est arrivée dans laquelle on l'a doté de la pire calamité qui soit, c'est-à-dire qu'il a été victime d'une malédiction absolument épouvantable jetée sur lui par les gens du management, au lieu que l'un stagiaire. Et donc à partir de là, je me suis dit... Ok, il y a une deuxième personne. Et puis du coup, le stagiaire, il avait des copains. Et puis on a retrouvé son ancienne copine, la copine du troll. Et puis toute une espèce de communauté s'est agrégée autour de ça. Bon, ils n'avaient pas d'anneau à aller faire des trucs, donc ils sont un peu restés dans le même coin. Mais à un moment donné, je me suis dit, ces gens-là ont la quantité d'informations nécessaires et la quantité de potentiel de délire suffisant pour faire un roman. Et c'est comme ça que l'instinct du troll, qui était le premier, et l'enfer du troll sont nés. Et je suis en train d'écrire le troisième, et croyez-moi, c'est absolument jubilatoire. Mais c'est né du fait que je me suis dit, je vis dans un univers professionnel très passionnant, d'ailleurs, parce que l'entreprise dans laquelle je vis est une entreprise absolument formidable, et ça fait pratiquement 40 ans que j'y suis, et je vais la quitter l'année prochaine, et croyez-moi, avec regret. Mais c'est quand même un endroit dans lequel il se passe des choses, mais absolument hallucinantes. Hein. Et donc, je me dis... Les endroits les plus dangereux de ma vie, ça a probablement été certaines salles de réunion. Les choses les plus dingues que j'ai vues, ça a été des collègues ou supérieurs, ou quelquefois des inférieurs, qui l'ont dit. J'ai quand même, il n'y a pas si longtemps, ça c'est une phrase que vous retrouverez dans le prochain troll, j'ai dit à un gars, il faut que tu me passes un de tes meilleurs mecs pour bosser sur ce sujet. Et il m'a répondu, aucun n'est assez bon pour être le meilleur. Et je me suis dit, ok, je te remercie, je le note. Voilà. Et voilà, et vous le retrouverez dans le recueil. Alors voilà, je me suis dit, cet univers-là, si on le regarde d'un pas de côté, si on remplace, je dirais, mes collègues par des nains, ça c'est facile, mes chefs par des trolls, c'est aussi facile, et mes ressources humaines par des nécromants maléfiques, c'est encore plus facile, à ce moment-là, je me dis, on peut arriver à des choses intéressantes, et c'est comme ça que le bouquin a démarré.
Oui, alors on a d'ailleurs, notamment dans le tome 1, quelque chose qui m'a beaucoup amusé parce qu'ils vont dans les mines, ils explorent, ils sont envoyés en mission, enfin ils vont à droite, à gauche. Mais alors surtout, il faut absolument qu'ils prennent les justificatifs de mission pour les notes de frais. Et alors s'il manque un justificatif, il faut retourner à Pétaouchnok pour le chercher parce que sinon ça fait un drame. Les nécromanciens, ils pètent un plomb. Donc voilà, on trouve des choses comme ça tout du long. On sent que c'est vraiment... C'est du vécu, c'est l'univers du travail, mais complètement décalé, qui se télescope avec tout cet environnement de fantasy. Alors, j'ai adoré aussi le 50 nuances de grès, G-R-E, accent grave, S. Ça a son importance dans la construction. Voilà, c'est émaillé de choses comme ça. Il y a énormément de jeux de mots, et donc vraiment, c'est très très intéressant. Alors du coup, on est sur quelque chose de également jubilatoire chez John Lang, donc tout l'univers de Nahuel Buck.
Je tiens avant tout à m'élever vivement contre l'intitulé de cette conférence.
On n'est pas là pour rigoler.
Il fallait que j'en parle, non, parce que pour moi... quand on commence un truc en disant « tu vas rigoler », personnellement, ça me bloque. Parce qu'en général, quand les gens disent ça, c'est par exemple en entreprise aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai un lourd passé. Enfin, heureusement, moi, c'est du passé. Toi, dans pas longtemps, c'est ça, t'es un an, ouais. Moi, quand quelqu'un vient me voir en me disant « tiens, il y a Roger et Bernard, on va rigoler », moi, je m'attends au mec qui dévisse les salières au self ou des trucs comme ça. Et ça me fait pas rire déjà. Et pour moi, c'est un peu la même chose que, par exemple, s'approcher de quelqu'un en disant « Tu vas voir, je vais te faire peur. » Ou alors « Je vais t'exciter, chérie. » Et je pense
ouais,
que
ça... Ça marche quand même.
Ça... Non, je pense que ça fait... Ça fait appel à des instincts humains qui, à mon avis, sont pas déclenchables comme ça. Et donc voilà, je voulais juste dire ça. Maintenant, je suis quand même content d'être là, même si moi, je préfère les sujets qui font peur ou qui sont sérieux, comme tout le monde le sait.
Bah, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que tu évolues dans un univers hyper sérieux.
Voilà, dont moi aussi, je m'inspire beaucoup de l'entreprise à plein de niveaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de mes aventuriers sont des baltringues. Et même, finalement, dans toutes les couches de la société, il n'y a que des baltringues. Est-ce que ça reflète un parcours spécifique? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'effectivement, en tablant sur le vécu d'entreprise, même quand les gens captent pas que c'est de l'entreprise, ils se disent « Ah mais oui, mais ça tombe sous le sens ». Et de retrouver... parce qu'en fait, c'est tragique. Hein, parce que souvent, ouais, nous, on en rigole, mais finalement, quand on vit des expériences qui font rire après avec les ressources humaines, par exemple, finalement, c'est tragique. Voilà. Et voilà, j'ai plombé l'ambiance. Merci.
Alors, je voulais en revenir à Nahuel Buck. Donc, explique-nous un peu la genèse de toute l'histoire. D'où c'est parti et comment ça a évolué, cette affaire-là?
Tout est accidentel. Autre question? Non. Bah, comment ça a évolué n'importe comment. D'où c'est parti, d'une idée à la con. Et ouais, donc j'avais envie de faire des trucs à une époque où l'internet était balbutiant. Et à l'époque, bon, j'avais plus ou moins compris déjà que lire des textes en ligne pour les gens, c'était pénible. Donc moi, j'écrivais déjà des trucs en ligne. Et à cette époque, je me disais que jamais un éditeur me ferait confiance ou quoi que ce soit. Moi, je ne pensais pas du tout éditer des choses. Donc j'ai mis en ligne du texte et puis au bout d'un moment, je suis passé à un format audio pour raconter des trucs un petit peu plus, de manière un peu plus rapide et puis moins élaborée, etc. Mais pour rester dans une optique de partage facile, en fait, après avoir écouté notamment François Pérusse, Les 2 minutes du peuple, notre maître à tous. Voilà. Et ça, c'était accidentel parce que je ne savais pas ce que je faisais ni comment le faire. Et après, j'ai fait plein d'autres trucs accidentels sans savoir le faire non plus.
Mais l'univers s'est quand même développé parce qu'au début, c'était ces petites lectures. Après, ça a commencé. Enfin, il y a eu des romans, BD. Ouais. Après, disques, des tas de choses sur le web, jeux de rôle. Et là, maintenant, on parle d'une série télé d'animation qui serait en chantier.
Ouais, ça fait un moment qu'elle est en chantier d'ailleurs. On retombe sur la thématique des baltringues, vous remarquez. Alors nous, le fait que je travaille de manière accidentelle, ça a amené un tas de trucs où effectivement le parcours Nahuel Buck est jalonné de mes aventures diverses. Là, on travaille sur un jeu vidéo qui, lui, avance parce qu'on a réussi à trouver des gens qui savaient faire leur travail. Mais il y a plein de choses... qui sont nés d'une volonté des gens de dire « Ah ouais, bah finalement, on peut faire les choses autrement. » Puisque moi, je travaille autrement. Par exemple, je publie le premier roman de ma série en troisième.
Pourquoi c'était, pas ?
Voilà, c'est accidentel. C'est accidentel. Mais j'ai un public qui suit plus ou moins. Donc j'espère d'eux qu'ils comprennent que les choses sont pas faciles forcément. Moi, mon truc, c'est le vécu, justement. Je travaille sur le vécu de jeu de rôle, le vécu d'entreprise, même le vécu militaire, parce que là, je crois qu'on a mis chaos sous la montagne. Ouais. J'ai pas fait longtemps à l'armée, mais moi, j'en garde un souvenir de grotesquerie à tous les étages, absolument hallucinant.
Et je parie qu'eux aussi, c'est des baltringues.
Oh. Non, alors je suis en train de faire un roman militaire d'ailleurs en terre de Fang, tellement ça m'a inspiré. Ouais. Parce qu'on vit des trucs. Moi, j'étais en contingent à Joigny. Alors, vous voyez déjà l'exotisme de la destination. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Lyon. Et là, nous, on avait l'espèce de Rambo de base en sous-lieutenant, qui est le mec qui est persuadé qu'il y a la guerre. Alors, il y a toujours la guerre quelque part, on va dire, mais pas à Joigny. J'ai trouvé ça extraordinaire d'arriver l'espèce d'exercice à la con qui consiste à être prêt à tout pendant 24 heures. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il faut être en treillis avec un flingue et tout. On arrive et le gars, il dit « Bon, vous êtes prêt ?» Je fais « Oui, mais à quoi ?» Alors, c'est le peloton en cas d'attaque de la base. Et je fais, mais qui va nous attaquer ? Alors, mais moi, j'étais honnête. Donc, je faisais pas ça pour le faire chier, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire chier. Mais moi, je lui pose la question vraiment. Et alors là, il commence à rentrer dans des considérations. Mais vous comprenez pas, on est là, il y a une armurerie. On doit défendre l'armurerie. Ensuite, il y a l'état-major au-dessus et tout. Je fais « Oui, mais qui va nous attaquer ?» Alors, mais n'importe qui, d'accord. Alors, qui nous a déjà attaqué ? Mais personne, c'est pas le sujet. Et le gars s'énerve, et puis bah, du coup, voilà, on se retrouve dans le collimateur d'un type, on n'a rien fait de mal. Et des gens comme ça, ouais. Et quand je voyais le mec, il était genre 20h, et je vois qu'il commence à se mettre de la espèce de truc noir, il fait « Oui, je pars patrouiller. » Mais c'est le genre de type on mettrait dans un film comique justement pour marquer le grotesque justement, et on dirait non, il est enfin c'est le personnage, il est exacerbé, ça n'existe pas. Si, même à Joigny.
Donc effectivement, on s'ennuie pas. Alors on a aussi l'expérience Nahuel Band.
Ouh. Ouais. Non. Alors comment faire de la musique avec des gens qui n'ont pas le temps, qu'on n'arrive pas à voir, avec qui on peut pas répéter, et qui ont tous un parcours musical différent. Eh bien, c'est facile. Ça s'est fait un jour où quelqu'un m'a dit, tu ferais pas un concert? Et là, j'ai dit, bah j'ai pas de groupe. Et d'ailleurs, j'avais pas de chanson non plus. C'est vrai. J'avais trois chansons. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un concert? Donc, pour les raisons précitées. Ouais. Pas de groupe, pas de chanson, pas de structure, pas de matériel. Et bien, j'ai dit, bah on va en faire un quand même. Alors, j'ai appelé des types que je connaissais, des filles que je connaissais. Dis donc, toi, tu m'as pas dit que tu chantais? Ben si. Eh ben, ça tombe bien, dans 15 jours, on a concert. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Alors, hop, second numéro. Ah, tiens, toi, tu joues pas de la guitare? Si, si. Ouais, je crois que tu chantes aussi. Oui, bon, eh ben, dans 15 jours, on a concert. Etc. Donc, je leur ai envoyé des fichiers comme ça et ils ont répété dans leur coin. Et le jour du concert, donc, il y avait des gens qui ne se connaissaient pas. Parce que c'était des amis à moi, mais certains ne s'étaient pas rencontrés. Tiens, bonjour, moi c'est Dimitri, je joue de la flûte. Eh ben, moi je chante. Eh ben. Et là, tout de suite, la goutte de sueur. Parce que, en fait, ils étaient venus à un truc où il n'y avait pas de groupe ni de chanson, mais il y avait 400 personnes. C'était l'époque où Internet marchait bien et qu'on pouvait mettre de l'information sur un site web et que les gens trouvaient cette information. Donc, moi, j'avais juste dit, bon, il y a un concert de Nahuel Buck. On n'avait même pas de nom à l'époque puisqu'on n'avait rien, en fait. Et on n'avait pas de console non plus, ni de scène. Donc, c'est là, voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait ce concert. Bon, alors, moi, j'avais monté un répertoire de briquet de broc avec même des chants en breton. Puisqu'à l'époque j'en faisais avec de l'irlandais, avec des trucs zarbi, les quelques chansons d'Nahuel Buck que j'avais composées à l'époque. On finit le truc, on se regarde tétanisé comme ça. Alors évidemment il y avait du bruit dans la salle, et puis on dit bon bah ça c'est fait, maintenant on va discrètement rentrer chez nous et se mettre une cagoule sur la tête et ne plus sortir pendant 15 jours. Et là des gens se précipitent avec des cartes de visite en disant c'était super, est-ce que vous voulez venir dans notre convention? C'est la naissance du Nahuel Band.
Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'au niveau des trolls, en fait, ils n'ont qu'une seule façon de faire la musique, c'est qu'ils tapent sur des cailloux. Bon. Mais il y a quand même des musiciens parmi eux, donc il y en a un qui a eu l'idée d'organiser les cailloux par rang de taille et de taper dans l'ordre, donc ça s'appelle du rock progressif. Mais...
Merci. Ben c'est vrai qu'on n'explique pas assez souvent la théorie de la musique.
Absolument. Alors Alexis Flamand, donc dans le cycle d'Alamander. Donc là, c'est le tome 1, c'est celui-là, c'est La Porte des Abysses. Tome 2, La Citadelle de Narc, donc les deux sont parus l'année dernière. Et vient de paraître La Nef Céleste, qui en principe devait être disponible aux Imaginales.
Voilà, qui est là, oui.
Qui est arrivé. Alors donc, parlez-nous un petit peu de ce personnage d'Alamander.
Alors, c'est un détective qui enquête sur les affaires où la magie entre en jeu. Voilà. Et il est exproprié de sa maison, il va devoir plaider sa cause auprès du royaume voisin, qui est un petit peu procédurier. Alors je pense qu'on a un petit peu les mêmes sources d'inspiration. Et donc c'est absolument abominable parce que en fait, il y a l'un des gardes quand il rentre qui dit « Mais vous savez, vous avez perdu votre maison, mais on va vous faire remplir un tel tas de paperasses que vous pourrez vous construire une nouvelle maison avec. » Donc c'est un véritable cauchemar et il va essayer de se débattre parmi toutes ces procédures et petit à petit s'apercevoir qu'il a été manipulé, donc mener l'enquête, etc. Et petit à petit découvrir le monde d'Alamander et ses secrets. Donc il y a de l'humour dans l'Alamander, mais alors, comment dirais-je, ce qui me rend très triste, c'est que j'ai vachement bossé mon synopsis, mes intrigues, mes coups de théâtre, etc. Et de temps en temps, je mets un petit peu d'humour. Seulement, le problème, c'est que je me retrouve dans la situation du pizzaiolo qui fait des pizzas, une pizza bolognaise, et puis qui met une petite touche de parmesan. Et les gens viennent lui commander des pizzas au parmesan. Alors, il y a de la viande hachée, j'ai mis de la tomate, etc. Ah oui, alors ça a l'air bon. Bah, mettez-moi deux parmesans, alors. Vous voyez ? Voilà, c'est-à-dire que j'essaie de faire une histoire qui se tient sympa, et comme il y a de l'humour un petit peu de temps en temps, les lecteurs ne retiennent que ça, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est pour ça que je dis souvent, alors déjà, essayez de ne pas rire si vous lisez Alain Mander, ça me permettra de ne pas passer pour un auteur humoristique. Ce que je dis souvent, c'est j'écris de la fantaisie avec de l'humour, mais pas forcément de la fantaisie humoristique. C'est-à-dire que c'est pas l'avant-plan.
L'univers est très très bien construit. On a un vrai univers de fantaisie. On a un démon. On a des choses qui sont représentatives. Mais il y a quand même ce côté humoristique qu'on trouve pas partout. Donc on peut pas faire autrement que de le noter.
Oui. Alors j'ai l'air d'être un peu honteuse hein, de mettre de l'humour. Pas du tout. En fait, quand j'ai écrit à la Mander, je me suis dit, tu te fais plaisir. Tu pètes les bretelles, t'as envie de mettre un truc, tu le mets. Et il se trouve que, j'ai mis des trucs et des machins, et donc ça part parfois un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc je n'ai pas pu faire autrement que de mettre de l'humour. C'est pour ça qu'il y a le côté un petit peu déjanté.
Mais ouais, je peux témoigner aussi par rapport à ce que tu disais. Le lecteur, de toute façon, va aller fouiner pour trouver le truc inattendu, auquel tu t'attends pas, et qui, en plus... et le contre-pied de ce que tu essayes de faire. Ça doit être une loi de Murphy de la relation auteur-écrivain. Mais moi, effectivement, tu parles de ta façon de travailler. Moi, c'est pareil. J'essaye de faire des trucs un peu avec une encyclopédie, machin et tout. Et quand je vois des gens, souvent, ils me disent « Hey, tu peux faire le dialogue où on dit chaussettes ?» Voilà. Et bon, moi, j'aime bien, mais quand même, des fois, je me dis... est-ce que je me fais pas chier pour rien ?
Alors du coup, pour vous trois, qu'est-ce que l'humour en fait ? Parce que
ça, je saurais pas te le définir.
C'est la partie philosophique.
C'est fini. Excusez-nous, là, on est.
Vous avez deux heures.
Non, je dis ça parce que dans l'enfer du troll, en fait, souvent l'humour, on dit voilà, c'est la grosse blague, machin bidule. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont grinçantes par moments.
Mais attends, l'humour depuis, ça existe, c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, je soupçonne John non plus, et ça existe quand même depuis un certain temps, et il y a toutes les variétés d'humour, tous les spectres d'humour, depuis l'humour glacé et sophistiqué jusqu'au machin bien gras et bien velu, bon, on peut jouer à tout. Ça, la définition, à la limite, on s'en fout. Ce qui est quand même marrant, c'est par rapport à ce que tu disais là, sur le fait que toi, tu es un auteur qui écrit de l'humour dans ta fantaisie, mais c'est pas de la fantaisie humoristique, c'est que tu t'aperçois effectivement que quand tu as des tweets sur tes bouquins, ce qu'on cite, c'est la grosse vanne, la truc bien lourd, tu vois.
Ce qui fait très plaisir, hein.
Oui,
qui fait très plaisir. Mais quand t'as passé deux heures sur le chapitre où il y a un coup de théâtre, etc., et le mec te dit il est trop drôle quand il glisse sur sa peau de troll. Ouais.
Et ça, c'est un peu perturbant parce que lors du premier bouquin, j'avais quelques jeux de mots, je dois l'avouer, qui n'étaient pas d'une finesse particulièrement exemplaire. Et mon éditrice m'a dit, Jean-Claude, est-ce bien raisonnable ? Et puis, ça en particulier, je te l'enlève. Ce n'est juste pas possible. Bon, tu t'es bien amusé, mais quand même, nous sommes entre gens sérieux. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais quand même que non. Non, ça, je le garde. Et puis vraiment, c'est indispensable. Parce que tu vas voir, je lui ai dit, dans les tweets, on va citer que ça. J'avais gagné. J'ai gagné. Un an après, là, j'ai dit, arrivé, t'as vu hein, les tweets, hein, tu vois, le truc sérieux là. Parce qu'on peut faire aussi une grande réflexion sur la vie, le mort, le monde et le reste. Et dire, oui, je sais pas, le business, c'est mal. Ou les consultants, c'est vilain. Mais à un moment donné, on fait une espèce de grosse, grosse vanne bien velue. Et les gens disent, ah ouais, là, quand même, je me suis bien marré. Quelquefois, ils voient le truc, ils disent, ah ben non, quand même, il a pas osé. Ils relient. Il relit encore, et puis à la quatrième fois, il éclate de rire en disant « Bah si, il a osé ouais. !» comme s'il leur fallait tout ce temps-là pour se convaincre. Ouais. Je me rappelle quand mes filles regardaient Le Seigneur des Anneaux, il y a la scène où Aragorn pousse les portes et on le voit en gros plan avec son visage rempli de sueur absolument magnifique, etc. En général, elles arrêtaient là, elles revenaient en arrière, elles faisaient le truc en faisant « Ah, ben pour mes conneries, c'est pareil !» Vous voyez, ils font rewind, ils regardent en disant « Non, il a quand même pas osé, bah si voilà. !» Donc, on est obligé de faire ce genre de conneries. Et après, tout ce qu'on peut construire, comme tu dis, toute la partie analyse, toute la partie grinçante, ben, quelque part, si, j'ai une famille à nourrir, il faut comprendre. Ma vie est dramatique.
Non, alors, comment t'as fait pour écrire la suite du troll? Parce que moi, j'avais lu le premier avec une camisole.
Ah ça, disons que de ce côté-là, j'avoue que j'avais une espèce de grosse pression sur le second. Oui, avec le nez, c'était un peu dur. J'avais une grosse pression sur le second parce qu'on me disait, mon éditrice me disait, Jean-Claude, il faut qu'il soit aussi sérieux que le premier. Je disais, ok, oui, mais néanmoins, il serait bien qu'il soit drôle aussi. Oui, et puis il faudrait qu'il se vende. D'accord. Bon, et j'ai dit, on pourra faire la couverture de Francescano. Elle m'a dit, si tu veux. Alors j'ai dit, donc, il se vendra. Et donc, à partir de là, j'ai pu foncer. Mais c'est vrai qu'on a une pression parce qu'on se dit, ok, j'ai tout mon groupe de gens, ils sont là, qu'est-ce que j'en fais? C'est des gens qui évoluent. Je veux dire, à la fin du deuxième bouquin, Cédric n'est pas le même qu'au début. Et croyez-moi, au début du troisième, il a encore évolué. Et tous ces gens-là bougent. Et à un moment donné, on se dit, j'ai quand même un devoir vis-à-vis d'eux de ne pas les plonger que dans les conneries. Et puis en fait, je me dis, mais dans le fond, je les déteste en fait. Et donc, oui, je les mets dans la merde. Et à partir de là, ça ne peut être que drôle, mais pour les autres.
Alors, je vais faire le bon élève, parce que si je fais le baltringue, je vais me retrouver dans... Je ne voudrais pas me retrouver dans l'ombre. Quoique. Alors, en fait, j'ai vu... Par transparence, qu'est-ce que l'humour? J'ai jeté un œil, j'ai dit, qu'est-ce que l'humour? Donc j'ai eu 2 minutes pour réfléchir. Alors, je pense qu'il y a un rapport entre l'humour et l'imagination. L'imagination, on dit souvent, c'est faire des rapports entre des choses qui n'en ont pas a priori. Mais est-ce que l'humour, c'est pas un peu ça? Simplement, le lien est un peu plus incongru. C'est-à-dire que c'est un lien qu'on ne ferait tellement pas entre deux éléments que le côté absurde nous fait rire, quoi. Le rire est un échappatoire. On expulse de l'air parce que c'est trop, quoi. On peut pas garder ça, hein. On peut pas garder ça en soi. Alors, sur la difficulté de l'humour, je suis évidemment tout à fait d'accord. C'est que, voilà, lorsqu'on est lu pour l'humour, c'est une énorme pression. Alors, j'ai un petit personnage qui s'appelle Redzel.
Il y a des bières gratuites.
Comment ?
Il y a des bières gratuites, on m'a pas prévenu.
Il y a un petit démon qui s'appelle Redzel, qui est un démon mineur et minable, voilà. Et ce petit démon, il est absolument insupportable. Et c'est une grosse pression pour l'auteur, parce que on sait que lorsqu'il est là, il faut qu'il fasse rire le lecteur. Donc, comment faire? J'ai botté en touche en disant que je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas là tout le temps, pour que ça ne fasse pas recette, hein, et puis et qu'il se fasse un peu digérer, qu'il arrive un petit peu de temps en temps, qu'il se pose là au milieu du récit, à un moment donné, on ne l'attend pas. Ça permet de s'économiser, puis ça permet de garder les blagues qu'on a péniblement écrites à 2h du matin en se réveillant, pour ne pas lasser le lecteur, voilà, pour ne pas lasser. Donc on a des petites techniques peut-être, voilà. C'est l'une des miennes pour ne pas, comment dirais-je, que l'humour devienne ronronnant, quoi, qu'il y ait toujours ce côté un petit peu surprise.
Et alors justement, est-ce que c'est facile à écrire? Parce que moi, j'ai l'impression que ça doit être plus difficile à écrire qu'autre chose.
Ben moi, j'avais préparé un PowerPoint en 58 slides pour expliquer l'humour. Ouais. Malheureusement, je l'ai oublié, on va faire sans. Ouais. Pour ma part, je fais des jets de dés. C'est un peu ton cyclotron, mais ouais, appliqué à la littérature. Pour avoir de l'inattendu, moi, je pense que quand c'est inattendu pour moi, déjà, comme j'ai expliqué, la plupart des trucs que j'ai fait étaient accidentels, déjà. Quand j'arrive à... Bon, je mets plus ou moins mon histoire. Je vais faire ça. J'envoie des gens, mes aventuriers ou d'autres. Et puis là, à un moment, je fais un jet de dés et je prends vraiment le résultat, justement. Bon, il s'avère que j'ai un jeu de rôle que j'ai écrit pour aller avec cet univers. Donc ça... Mais on peut utiliser d'autres techniques. Mais là, justement, c'est comme ça qu'on aboutit à des situations qui, d'ailleurs, sont souvent pas drôles, puisque, effectivement, on arrive à des trucs tragiques, hein. Moi, j'ai un voleur qui est mort en ouvrant une porte. Bon. sur le coup, en fait, effectivement, en tant que joueur, c'est tragique, mais en fait, ça fait rire les gens depuis 17 ans, même si après, ils viennent avec des pancartes en me disant « On veut ressusciter le voleur ». Et il y a des gens qui viennent encore me dire « Mais pourquoi le voleur est mort ?» Alors, justement, parce que c'était pas prévu, c'est un jet de dés. J'aboutis des fois à des trucs, à du gag ou à des situations de crise ou quoi, avec des jets de dés. Mais effectivement, on peut trouver du gag vraiment inattendu de cette façon, je pense.
Jean-Claude, est-ce que ça te paraît plus difficile d'écrire des choses où il y a de l'humour, avec peut-être la peur de se foirer
Non, d'abord, là, je suis désolé, je vais dire un truc. En tant qu'écrivain, s'il y a un domaine dans lequel je suis tranquille en tant qu'écrivain, je n'ai peur de rien. Alors là, s'il s'agit d'aller véritablement profond dans la connerie, je peux y aller et quand j'arriverai au fond, je vais creuser. Je veux dire, il n'y a pas de problème, je me débrouillerai, j'arriverai à faire des trucs. J'ai aucun souci de ce côté-là. Non, ce qui m'intéresse dans l'humour, c'est d'avoir une situation dramatique ou susceptible d'être chargée d'émotions, mais d'émotions pas nécessairement drôles. Et au moment où ça pourrait se résoudre d'une façon particulièrement épouvantable, de faire un pas de côté et de me mettre à ricaner bêtement. Et le pas de côté, c'est véritablement comme dans la vie, vous êtes dans une réunion, vous avez le type qui vous dit « j'en ai aucun qui est assez bon pour être le meilleur ». Vous avez deux solutions, soit vous vous dites « mon Dieu, quelle catastrophe, l'entreprise est foutue, et là, qu'est-ce que je vais faire, mon projet est là ». Et puis vous regardez en disant « c'est quand même un gros con ». Et puis voilà, et on est dans cette situation-là, donc on est capable de faire ce demi-pas, comme tu dis, avec les baltringues. Et mon boulot, c'est de faire ce travail, c'est de toujours trouver l'endroit où je vais pouvoir regarder les choses en me marrant. Et je peux mettre des situations dramatiques, une situation dramatique, par exemple, à la con. J'ai rêvé à un moment donné qu'on retrouvait des licornes complètement réduites en cubes parce que les ressources humaines avaient décidé de faire des compressions de personnel. Bon. Vous voyez le truc à la con. Bon. Mais attendez, j'ai écrit la nouvelle. Hein, je vois, ça devient dramatique. Bon, donc je me dis... Bon, j'ai dit, OK, je peux comprendre les ressources humaines parce qu'on n'a plus tellement besoin de licornes puisqu'il n'y a plus de vierges. Bon. Donc, à un moment donné, on ne s'en sert plus. Donc, autant faire la compression de personnel, ça prend moins de place. Bon. Mais à ce moment-là, je vous jure, c'est comment ça se passe. Je fais une commande pour mon studio de CD que je devais enregistrer. Et je me dis, mais si, il y a les CD vierges. Et du coup, j'imagine les CD vierges sur la corne de la licorne. Et je dis, les licornes servent à transporter les CD vierges. Et à partir de là, je veux dire, tout va bien. Donc, j'ai une situation qui est d'une simplicité déconcertante et dans laquelle qui ne fait rire personne. Alors, à partir de là, je me dis, pour quand même que ça fasse rire, il faut quand même que je les compresse un peu au début pour que ça soit tragique et puis qu'après, j'enfile un CD sur la corne pour que là, il y ait non pas le rire parce que c'est drôle, mais le rire de soulagement. Genre, les licornes sont sauvées, vous voyez. Bon. Et à partir du moment où j'ai sauvé les licornes, d'abord, j'ai plein de petits-enfants de moins de 4 ans qui sont très, très contents. Et puis ensuite, j'ai quand même un truc qui a tenu le truc d'une nouvelle. Mais vous voyez, on est toujours dans cette démarche-là et c'est pas gai, c'est pas drôle. Parce que c'est vrai que les histoires qui arrivent aux stagiaires, le fait que d'être obligé de revenir en arrière, refaire sa mission alors qu'il n'y a plus besoin pour aller récupérer ses notes de frais, c'est pas drôle dans l'esprit. Mais on le vit dans cette situation-là, quoi. On le met avec le décalage en disant « mais c'est quand même con, quoi ». Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'on peut faire des jeux de mots. Ça, j'avoue, pour les gens qui me connaissent, il m'arrive d'en faire, et éventuellement.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Et donc, à un moment donné, quelquefois, je me réveille en me disant, attends, celui-là, mais il est vraiment, il est particulièrement pathétique, donc je le garde. Et là, j'en empile, et puis quelquefois, dans le texte, arrive justement l'endroit où je peux mettre le jeu de mots. Et alors, souvent, vous vous apercevez que vous êtes obligé d'écrire une scène tout à fait sérieuse. Vous avez 10 lignes, 15 lignes, quelquefois une page et demie, vous mettez votre truc bien précisément, vous mettez tout en place, ça se déroule, ça se lit, c'est sérieux, c'est dans le cours de l'histoire. Et à un moment donné, là, vous assénez votre espèce de machin, jeu de mots. Et les gens regardent en disant, mais non, c'est pas vrai, il m'a fait tout ça pour ça. Et là, ils vous en veulent. Mais vous avez écrit deux pages, vous voyez, ça a un avantage. Voilà.
J'imagine bien Mireille en train de s'arracher les cheveux quand elle lit ça.
Régulièrement, puis en train de me dire, mais ça, on va l'enlever. J'ai à qui je dis, non, tu vas voir le nombre de tweets qu'il va y avoir à propos de ce truc-là. Voilà.
Alors, je continue sur la difficulté. Je pense que c'est difficile de mettre de l'humour. C'est une question de tempo, c'est une question de rythme. C'est-à-dire qu'on a des vannes, on pense à des vannes. Oh, je vais le placer. Donc on est tout content, on place sa vanne. Mais c'est presque à la phrase près, quoi. C'est presque au point près. C'est quand même, ça peut être drôle à la virgule près, puis à un moment donné, c'est pas drôle. Alors, personnellement, je garde les blagues qui me font rire. C'est-à-dire qu'on écrit, on réécrit. Et quand je suis à la cinquième, sixième réécriture, quand se passe un truc, des fois, je me surprends, je ris tout seul. Alors, c'est très narcissique, mais il n'y a personne autour de moi. Donc, si ça me fait rire, je me dis, bon, je garde. Si je suis là, je me dis, non, j'enlève. Voilà. Donc, il faut aussi peut-être pouvoir se faire rire. C'est à l'endurance.
Ouais, moi, j'allais justement parler de ça. Je pense que, enfin, un des gros drames, notamment à mon avis dans le cinéma français, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent « Bon, qu'est-ce qui fait rire les gens ?» On part dans une démarche de malhonnêteté déjà. Et d'où des comédies complètement pathétiques qui sortent en France où les gens se posent la question de ce qui fait rire. Or, par rapport à ce que tu disais, là, t'es dans une démarche honnête. C'est-à-dire que tu fais tes trucs et puis peu importe, quoi. C'est-à-dire... Déjà, si toi, t'es content, Enfin, moi, personnellement, je fais des... quand j'arrive à me faire rire moi-même, déjà, je suis super content. Et quand je ne me fais pas trop rire, bah, c'est parce que j'ai un but, je raconte une histoire ou quoi. Je ne fais pas, je suis pas en train de chercher, de me creuser la tête en me disant « Alors, pour faire rire les enfants de 8 à 12 ans, par exemple, le genre de truc, il y a des réunions dans l'audiovisuel français où les gens font des réunions sur ça. »
C'est à partir du moment où on suit la recette que le gâteau est foiré, je crois.
Ouais, c'est ça. Mais ça doit être...
Il y a un dessin de Sampé qui est paru il y a à peu près 15 ou 20 ans, qui est très très célèbre là-dessus. Vous avez un bureau d'éditeur, alors il faut imaginer, bureau immense, un mur tapissé de livres, un éditeur en costume cravate, tout à fait sérieux comme ça, qui est sur une chaise. Devant lui, il y a un auteur qui, lui, est tout petit devant sa chaise, et il lui dit « Ensemble, nous allons relire votre pièce et nous agiterons ici ou là quelques gags des opilants. » Et là, on se dit, à mon avis, voilà. Et là, on regarde ça, on se dit « Ok, mais vraiment, le monde du cinéma, c'est ça. »
Oui, bah, j'ai discuté avec des gens qui travaillaient dans le milieu des séries et qui me disaient bah, voilà, on nous commande un truc et puis on a des idées. Et là, à un moment, il y a un mec qui sort qui puis dit bon, alors moi, je sais ce qui fait rire les jeunes de 8 à 12 ans. C'est pour ça que je disais ça. Et donc, il faut mettre ça.
Et, alors, c'était quoi dans le détail?
C'était, ils m'ont pas donné le détail hein, parce qu'en fait, ça faisait des mois. Non, mais ça faisait des mois que les mecs essayaient d'écrire un épisode. D'accord. Et à chaque fois... Alors bon, pour le gag, c'était un truc qui mettait à la fois les décideurs de TF1 et ceux de Disney. Au niveau des contraintes, hein, là je vous parle au niveau de contraintes d'écriture. C'est-à-dire qu'on a le droit de rien faire, quasiment, mais il faut le faire quand même. Et en plus, avec des contraintes de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors... On avait parlé de notamment une des tables rondes de cette espèce d'étiquette à la con qui dit que pour intéresser des adolescents, il faut mettre des adolescents. Chose que moi, j'avais réfutée en disant que dans mes livres, il n'y a pas d'adolescents sauf un qui meurt vite fait et un autre qui est transformé en chèvre. Au bout de 5 minutes, et j'ai plein d'adolescents qui les lisent et ils ne sont pas venus chialer en disant il n'y a pas d'adolescents. Donc, bon, c'est peut-être un exemple parmi d'autres, mais en fait, on s'en fout. Et je pense que si tu pars dans une démarche malhonnête en commençant à te poser la question d'une cible, de qui tu veux faire rire, de comment tu veux le faire rire, ouais, alors là, il faudra qu'il rie ici parce qu'il a 8 ans. Et là, là, on s'adresse plutôt à un jeune adulte, alors entre 14 ans et demi et 16 ans et demi, tu vois. Et je pense qu'on est dans une démarche malhonnête qui fait qu'on arrive, comme il disait, à un gâteau...
Voilà, je pense que l'humour ne peut être que spontané. La drôlerie ne peut être que spontanée. Autant on peut avoir des recettes sur des romances, une tension sexuelle entre deux héros qu'on voit très bien dans des séries américaines, sur des drames avec une construction. On ne peut pas construire de l'humour. L'humour se construit tout seul ou il ne se construit pas, quoi. Voilà. Il y a un côté, il faut que ça fuse. Sinon, ça ne peut pas exister.
Puis c'est aussi une espèce de façon d'aborder le monde, une espèce de regard. Et ça, c'est très difficile à expliquer, à faire comprendre. Moi, j'ai eu, enfin, je ne veux pas dire ce problème-là, mais quand j'ai commencé à être embauché à Airbus, je me rappelle d'une situation qui était très, très curieuse. Ça devait être en 85, donc vous voyez, j'étais jeune et frais, j'étais tout juste petit ingénieur dans mon équipe. Là. Et à un moment donné, les gars me voient partir d'une espèce de fou rire, mais absolument mais monstrueux. Bon, c'était avant Internet, donc ils savaient que j'étais pas en train de regarder YouTube, quoi. Mais ils m'ont dit, qu'est-ce qui te fait rire? Et ils viennent voir ce que je faisais, en se disant, il lit Picsou pendant que nous, on travaille. Et en fait, j'étais en train de lire une revue qui s'appelait Matériaux et Procédés. Vous voyez? D'accord? Déjà, vous voyez,
revue humoristique.
Ça commence à vous poser un petit peu le cadre. Et j'étais en train de lire un article, c'est vrai, qui s'appelait « Comportement des alliages d'aluminium en milieu corrosif salin ». Vous imaginez tout de suite, là, oui, non. Là, on était carrément dans l'hystérie, vous voyez. Et il me regarde, alors déjà, moi, j'étais mais mort de rire en train de me rouler par terre sur la moquette, quoi. Il me regarde le truc, bon, puis vraiment, c'est, à un moment donné, il y en a un qui s'exprime au nom de tous, qui me dit, explique-moi. Alors j'ai dit, ben, regarde l'article. Et en fait, l'article expliquait, dans le genre du comportement des alliages aluminium en milieu corrosif salin, il prenait l'exemple de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, il faut savoir, elle est creuse. Ce sont des entrelacs de poutrelles, comme la Tour Eiffel. Ça a d'ailleurs été fait par la Tour Eiffel. Après, vous avez des pans de métal, de bronze, qui sont de Bartholdi, qui a fait l'espèce de machin. Et puis, donc, en 1972, je crois, pour fêter le centenaire de l'Amérique, qui datait de 1772, le bicentenaire, il décide de restaurer la Statue de la Liberté, parce que le bras de la Statue de la Liberté s'était un peu affaissé. Bon. Pourquoi il s'était affaissé ? Ben parce qu'il y a plein de gens qui montent là-haut dans la torche, il y a des touristes, on peut y aller, donc bon, à fort le poids. Et alors, il s'était produit, au niveau de l'aisselle de la statue, qui était lisse au début, vous voyez, parce que Bartholdi il avait fait une truc lisse, il s'était produit, quand on appuie sur le poids, on appuie, puis à un moment donné, clac, il y a un phénomène de flambage, et on voit apparaître des espèces de replis. Et là, dans ces replis-là, donc, qui était la plaque qui avait comment dit, flambé, qui avait fait ses trous, on voit des oiseaux qui se mettent, qui commencent à mettre des goémons, des machins, des branches, tout ça, à faire un petit caca par-ci, un petit caca par-là. Donc, vous aviez une Statue de la Liberté avec l'aisselle qui sentait sous les bras. D'abord, elle avait des poils, et puis ensuite, elle avait tout ce truc-là. Bon, c'était pas dit dans l'article, mais c'était décrit. Bon. Et moi, quand j'arrive là, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas sponsorisé avec Rexona, genre, à vue de nez, la liberté, les 5 heures. Enfin, je me suis dit, c'était génial, quoi. Il y avait de quoi faire. Et donc, en train de me rouler par terre sur la moquette, et j'ai dit à mes camarades, mais vous ne voyez pas? Et eux regardent, ils disent non, les équations de flambage ont l'air normales. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. La table de comportement analytique des nus et des rots du truc ont l'air. J'ai dit, d'accord, mais vous n'avez pas vu le coup de l'aisselle qui machin. Et puis, je commence à leur expliquer ce que je vois. Et là, un bide, mais alors, comme ici, un silence total. Et ils me disent, mais t'es quand même bizarre comme garçon. Et j'ai dit, mais je comprends pas, enfin, c'est là, c'est écrit. Ben, ils m'ont dit, oui, d'accord, écoute, continue à lire l'article, mais arrête de nous embêter, si tu dois continuer à rigoler, s'il te plaît, va le faire dans une pièce à côté. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais c'était vraiment ça, quoi. Donc, à un moment donné, je me dis, si je raconte simplement ce qui se passe dans une réunion, comme je le vois, si ça se trouve, je vais faire hurler au moins les gens qui sont comme moi. Je sais qu'il y en a au moins un deuxième, donc ça va, je pourrais faire ça. Et j'ai écrit une fois dans une réunion, pareil, c'est la seule fois de ma vie où j'ai écrit une nouvelle dans une réunion, elle était très courte, c'était un échange de mails de dinosaures, parce que j'ai vu une réunion, vous savez, le genre de réunion, la réunion apocalyptique. Vous êtes là, vous êtes bourré de boulot, et le chef vous réunit parce qu'il doit vous faire passer les grands messages de la direction. Alors, la direction, il faut savoir, elle fait sa vision stratégique pour les 2 ans, donc 150 planches, qu'on refile ensuite aux gens qui assistent, au tout petit nombre de gens qui assistent à la grande réunion stratégique de grands patrons, qui disent, non, ça, ils n'ont pas à le savoir, ça, ils n'ont pas à le savoir, ça, je l'enlève, ça, ils n'ont pas à le savoir, ça, je vais résumer, ça, je vais. Donc, ils en ont un paquet, présentent aux gens d'en dessous, qui, évidemment, reprennent les planches, enlèvent, non, ça, ils n'ont pas à le savoir, ça, je préfère le savoir, moi, eux, pas eux. Bon, après, et puis, vous arrivez, alors, moi, j'étais à peu près 7 couches en dessous, vous voyez, donc, j'étais le lumpen prolétariat, et j'avais un chef qui était, donc, 6 couches en dessous, qui, lui, n'avait que 12 planches, mais qui devait nous faire le truc. Et la première planche commençait par « L'avenir est devant nous ». Alors, il faut imaginer, le mec, il avait posé son truc en plastique, il avait pas PowerPoint à l'époque. Et puis, il y avait une feuille de papier qui cachait. Là. Donc, il restait 3 minutes à nous expliquer que l'avenir était effectivement devant nous. Ce dont il a réussi à nous convaincre, d'ailleurs. Et ensuite, il a tiré la feuille blanche. Et là, on a vu apparaître « Il ne nous attendra pas ». Et il a dit « Ça, c'est la partie importante du message ». Et à ce moment-là, j'ai dit « Putain, c'est comme ça que les dinosaures ont disparu ». Alors, j'ai pris une feuille de papier. Et j'ai commencé à griffonner, mais comme un malade. Et ce que voyant, mon chef m'a dit, tu fais le compte-rendu? J'ai dit, parfait, je fais le compte-rendu. Et j'ai fait un échange de mails entre dinosaures, où il y en a un qui a repéré un astéroïde et qui essaie de faire avancer le truc. Et en fait, ça ne marche pas. À la fin, je rentre à la maison, je tape ça sur ma bécane, je l'imprime, je diffuse à mes camarades, sauf au chef, je ne suis pas fou. Et en disant, voilà le compte-rendu de la réunion. Tout le monde se marre, sauf un qui vient me voir très sérieux, qui dit, ça ne marche pas ton truc, tu n'as pas mis les consultants dans la boucle. Et là, je me suis dit, là, il a fait de moi pratiquement, c'est là qu'est né le troll. Je me suis dit, putain, mais il a raison, je n'ai pas mis les consultants dans la boucle. Donc, je suis revenu, j'ai rajouté l'email des consultants et j'ai refait circuler la nouvelle version et j'ai mis dans un tiroir en oubliant pendant des années. Sauf qu'un jour, l'Express m'a demandé une nouvelle courte, nouvelle de moins de 5000 signes. Alors, l'avantage des emails, c'est très court et chaque mot compte. Et donc, je lui propose ça, le mec se marre, me dit, ok, ça fait une page. Et à partir de là, cette nouvelle, elle a été météoritique. Et en plus, elle m'a rapporté plein d'argent parce qu'elle a été achetée par IBM Canada pour faire des cours, justement, à leurs consultants. Alors, j'aurais quand même dit, attendez les mecs, je veux pas je veux pas casser le truc, mais vous vous êtes rendu compte quand même que ça marche pas. Et ils m'ont dit, ben justement, on veut le montrer comme contre-exemple et faire travailler les gens sur ce qu'on aurait dû faire à la place. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont pris mes conneries et qui ont dit, avec ces conneries-là, on va essayer de faire encore plus con, mais au moins ça nous rapportera de l'argent. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont payé. Oui.
Je suis admiratif.
J'avoue, effectivement, que c'est un travail hautement intéressant. Enfin, ceci dit, moi, si je devais aussi décrire ce qui se passe dans l'enseignement, on n'est pas rendu non plus.
D'ailleurs, moi, j'ai appris de nombreuses reprises que des professeurs faisaient des cours avec mes trucs aussi. Donc, quelque part, on se dit, à un moment donné, notamment, bah, c'est peut-être un peu le... j'avais fait je sais plus quoi et un prof me dit ah ça c'est très bien parce que moi je vais pouvoir expliquer de l'économie je ne sais plus quoi avec et juste pour intéresser les gosses avec juste une pointe d'humour en fait mais c'était les mêmes calculs chiants qu'ils auraient fait en économie normale mais là il y avait des pièces d'or et des nains et tout d'un coup là tu dis ah mais si en fait je sers à quelque chose dans la société. Bon, moi, j'étais pas payé, par contre.
C'est bien là le drame. Est-ce que vous avez l'impression que l'humour a une grande place dans l'imaginaire ? J'ai pas l'impression qu'il y a... Peut-être un peu plus maintenant, mais il n'y a pas tant de romans que ça. Il y a beaucoup de gens, notamment des éditeurs, quand ils voient arriver des projets un peu comme ça, qui sont très réticents et qui veulent des choses sérieuses.
Je vais commencer. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que, on le disait tout à l'heure, l'humour est très difficile à mettre en place. L'humour drôle, c'est-à-dire faire de l'humour, tout le monde est capable de le faire. Mais faire rire, c'est très difficile. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la fantasy, c'est quand même un genre épique, avec des héros, hein, avec des, voilà, on est dans des archétypes héroïques, des gens qui ont du courage, qui ne sont pas là pour rigoler, qui sont là pour faire saigner, pour casser du troll ou du gobelin, ou etc. Dans la mesure où c'est héroïque... On ne peut pas dire que le héros arrive dans la taverne et tue le méchant et pouette-pouette, il termine par un entrechat sur la table pour fêter sa victoire. Ce n'est pas possible. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la fantaisie a acquis suffisamment de maturité pour se moquer d'elle-même ? Je ne sais pas. La fantaisie, c'est un truc de grand gosse. Alors, en science-fiction non plus, il n'y a pas énormément de... Il y a de grands auteurs, chez Clay, Brown, Douglas Adams. Peut-être que la fantasy n'a pas encore ce retour pour pouvoir facilement se moquer de ses travers, etc. Alors, moi, ce que je connais en humour, c'est Pratchett, hein, évidemment. Hein. Alors, Pratchett, bon, c'est génial. Avec ce petit bémol... Le pauvre. C'est que quelquefois, c'est tellement drôle qu'on a l'impression que l'histoire est un peu en arrière-plan. Quoi. C'est la vanne avant tout, et puis bon, l'histoire se déroule comme elle peut se dérouler. Il y a un deuxième exemple qui est beaucoup moins drôle, c'est un gars qui s'appelait Lyon Sprague de Camp, qui est très connu pour ses écrits sur Conan. Il a écrit dans les années 70 quelque chose qui s'appelait Le Roi entêté, à l'heure d'Iraz, etc. Voilà. Et j'ai lu ça, c'était vendu comme quelque chose de désopilant. Bon, il n'y avait rien à l'époque, hein. Même Pratchett n'était pas encore super connu en France. Et à un moment donné, il jure, il dit « Par les couilles des reins d'Imbal !» Et moi, j'étais estomaqué tellement c'était pas drôle, quoi. Alors que et tout est comme ça, donc c'est de la pantalonnade, mais c'était vraiment pas rigolo. Et depuis, j'avoue qu'en fantasy, à part nos sémillants invités, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de drôle en fantasy aujourd'hui. Il y a Xant aussi, le cycle de Xant peut-être. Ah ben là, le...
Ouais, de Grimbert. Alors moi, ça me fait beaucoup rire, ça.
Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu parlais, il y a un jeu de mots qui est arrivé.
Et
qui est
facile. Prends le micro.
Moi, j'ai dit, pendant que tu arrivais, il y a un jeu de mots qui est arrivé qui est assez facile.
Oui.
Parce que tu parlais de fantaisie épique. Et effectivement, dans un bouquin de fantaisie épique, il y a toujours des moments, des pics d'intensité. Bon, après, ça dépend des différentes écoles. Mais en général, c'est vrai qu'on est plutôt tourné vers le drame. Mais là, du coup, tu as pique, école et drame, si tu veux. Donc...
Il est très fort.
Voilà, on peut le faire. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt, mais on peut préparer la phrase pour à un moment donné balancer ça à la fin. Vous voyez.
Oui, on vous disait hein, tous les 8 mois et demi. Hein. Tu devrais les vendre.
Merci, c'était ça. Non, il n'y en a pas tant que ça, effectivement. Mais par contre, les éditeurs qui vous disent « je suis un peu méfiant de la fantasy humoristique », ils devraient regarder les chiffres de vente de Pratchett, de Xant, oui, etc. pour, oui, se dire que, bon, en fait, si ça les fait rire, eux, ils vont le publier. Simplement, il faut arriver à les faire rire, eux. Or, faire rire un éditeur, croyez-moi, bon, c'est...
On m'a refusé un texte en me disant « il est très bien, il est super votre texte, mais l'humour ne marche pas en France. Désolé, on ne peut pas vous le prendre. »
Hélas, j'ai rigolé.
Un truc comme ça, un truc comme ça.
Moi, par rapport à la fantasy, j'ai jamais trop vu le problème de l'humour parce que moi, j'ai toujours eu du mal à la lire sérieuse, en fait. Mais c'est peut-être un travers de gamer puisque j'ai découvert la fantasy en même temps que le jeu de rôle. Et en fait, pour moi, les héros, je les ai vus en action, quoi. Et je sais que ça se passe pas comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit mes trucs. Et... avec en plus le vécu d'entreprise et tout ça, perso, moi, j'ai jamais compris la fantaisie sérieuse. Donc, je suis de l'autre côté, en fait.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le public ?
Oui, alors je crois qu'on n'a pas le micro. Le fil n'est pas assez long.
Criez, monsieur, criez.
Essayez de
faites des signaux de fumée.
Ah bah tiens, voilà. Eh ben tiens, voilà, c'est toi. Allez.
Merci. Ouais. Alors.
Comment ça va ?
Alors. Merci. Alors, moi je viens juste pour assister notre ami.
Tu vends ta Peugeot 504 qui est en bonne.
Voilà. C'est ça.
Bon état.
Non, c'est pour préciser quelque chose au sujet de ce qu'a fait Alexis Flamand et sur lequel il a, à mon avis, pas assez insisté. C'est que ce qu'il écrit, en fait, on discutera de ça après. En fait, c'est que ce qu'il fait, c'est pas du tout de la fantaisie à laquelle on est habitué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout les archétypes qu'on voit dans la fantaisie à la Truelle ou ce qu'on peut avoir chez certains éditeurs. En fait, l'humour, c'est vrai, n'est pas la... Il y en a, mais c'est pas du Pratchett, c'est pas du Sheckley, c'est pas l'important. L'important, c'est les histoires, les personnages, et vraiment, on est pris dedans, et c'est magnifique.
Donc, voilà.
Donc, ouais.
Comme d'habitude.
Je parle des poulpes de guerre ou pas ? Juste non, pour donner. Non ?
Non, écoute, votre asseoir.
Ça va se voir, ça va se voir. Donc, c'était mon cousin qui...
Une autre question ?
Tout à fait, mais qui c'est par pointe, c'est de temps en temps. Il y a la. Ouais. Dans Les Portes de la Mort de Weiss et Hickman, il y a des moments qui sont vraiment très drôles. C'est héroïque. C'est Lance Dragon, hein, Weiss et Hickman, donc c'est des grandes personnes du jeu de rôle. Et à un moment donné, il y a le gars, il rencontre Gandalf, quoi. Il dit ah oui, c'est mon. Et il y a des moments qui sont très drôles, mais. C'est toutes les 100 pages, quoi. Et ça fait d'autant plus plaisir, cette connivence avec l'auteur, que ça n'est pas toutes les 2 pages avec la punchline, etc., etc. Donc c'est mon tonton qui... Le café est gratuit, très loin dans la bulle du livre.
Bien. Alors, on va être obligé de conclure parce que je vois qu'on a très légèrement dépassé l'heure. Il est 13h01. Très légèrement, mais nous avons dépassé. Donc, je tenais à remercier les auteurs présents, remercier le public. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, qu'on a bien traité le thème.
Et pour les souvenirs, puisque ces conférences sont enregistrées, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, 3, 4 ans peut-être, on était un jour jeune et moi, et on s'est dit quand même c'est ralent que les gens écoutent ce genre de conférences chez eux tranquillement au lieu de venir ici. Donc on a décidé pendant 5 minutes qu'on ferait des gags visuels. Donc il n'y avait rien au point de vue enregistrement et nous on faisait les cons, tout le monde se marrait. Donc sur l'enregistrement, il n'y a que des bruits de rire, mais il n'y a rien. Et ça, c'était génial. On devrait le refaire.
Merci beaucoup et vous pouvez retrouver les auteurs à la bulle du livre.